Amen. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin et on va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 47. C'est la rentrée en septembre. Je sais que peut-être certains ont des enfants, les ont amenés à l'école. C'est un petit peu particulier le fait de laisser ses enfants à l'école. Hein. Et vous savez, pour les, moi je suis professeur et pour les maîtres, pour les professeurs, c'est aussi quelque chose de se dire comment ils ont évolué. Ça grandit vite un enfant. Ça grandit vite un enfant. Et vous aussi, vous grandissez vite. Les années passent vite, vous les parents. Vous qui n'êtes pas parents, vous aussi, vos années passent vite. Et on arrive à parfois à faire le point sur notre vie. Ça vous est déjà arrivé? Regardez un petit peu votre famille. Vous rappelez, il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que vous pensiez de votre vie et qu'est-ce que vous voyez pour vos frères et sœurs? Moi, je me dis ça des fois. Je me dis, tiens, quand je fais le bilan, parmi ceux qui avaient choisi de suivre Dieu, combien aujourd'hui sont encore passionnés pour Dieu, sont engagés pour Dieu? Combien se sont refroidis? Combien ont quitté même Dieu? Et j'ai réfléchi à ça cette semaine. Je me dis, mais c'est... Comment on peut expliquer que certains soient bien partis et puis finalement se sont refroidis? D'autres, peut-être toi, n'étaient pas super bien partis au départ, mais aujourd'hui tu es là et tu es proche de Dieu. Combien étaient un jour passionnés pour leur église, pour leur Dieu, et cette flamme est partie. Et je me dis, mais ça se joue à quoi? Vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes encore chrétien, pourquoi d'autres ne le sont plus? Ça se joue à quoi? Eh bien, je suis persuadé que c'est chaque jour, chaque minute et chaque heure. On a une multitude de petits choix à faire. On a des décisions à prendre et notre vie n'est pas bonne ou mauvaise pour un seul choix. C'est vrai, il y a des choix graves qui ont impacté nos vies dans le bon ou dans le mauvais. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'à la fin d'une vie, ce n'est pas sur un choix que tout s'est joué. C'est sur la décision quotidienne de vouloir s'attacher ou pas à son Seigneur. Je méditais la Bible et je voyais l'exemple de Jacob. Ouvrez avec moi votre Bible dans le livre de la Genèse. Au chapitre 47. Ça vous est déjà arrivé de vous demander « Et si j'avais pas fait ça ? Et si je n'avais pas déménagé ? Et si je n'avais pas construit ma vie avec cette personne ? Ou « Et si je n'avais pas été jusque-là dans mes bêtises ? Et si ? » Et des fois, il y a des « Et si » qui nous frappent. Parce qu'il y a des décisions qui nous ont impactés. Genèse, chapitre 47, verset 7. Joseph fit venir son père Jacob pour le présenter au Pharaon. Devant le trône d'un roi. Jacob salua respectueusement le Pharaon. Celui-ci lui demanda, « Quel âge as-tu ? » Jacob répondit, « Le nombre de mes années et de mes migrations est de 130. Mais les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. C'est triste. Hein. C'est triste de voir papy Jacob devant le trône du roi. Vous savez qu'un jour, on sera devant le trône de Dieu. Hein. Plus grand que le pharaon, largement. Et on fera le bilan de notre vie. Et Jacob, lorsqu'il est devant le pharaon, il dit « ça n'a pas été de la qualité comme j'aurais voulu. Ce n'était pas mon projet au départ. » Il y a... Ah, et si j'avais fait différemment? Et si j'avais fait différemment? Parce que quand vous regardez ce qu'a fait son père, c'est dans, peut-être ne cherchez pas, ça va s'afficher simplement, son grand-père, alors on va voir son grand-père Abraham. Regardez ce qu'il est dit à la fin de la vie d'Abraham, en 25, chapitre 25, verset 7. Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir, il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, il rejoignit ses ancêtres. Est-ce que Abraham était meilleur foncièrement que Jacob? Non. Mais je crois que Abraham a fait des meilleurs choix que Jacob. Et ça ne s'est pas joué sur un seul choix. Ça s'est joué sur une vie. Et si? Et quand je regarde le papa Isaac, c'est dans Genèse 37. pardon, Genèse 35, Isaac, Genèse 35, verset 28. Genèse 35, verset 28. Isaac atteignit l'âge de 180 ans, puis il rendit son dernier soupir et mourut. Il rejoignit ses ancêtres âgés et comblés de jours. C'est pour ça que Jacob, lorsqu'il est devant le trône du roi, il dit « Mes jours ont été mauvais ». Alors je voudrais voir deux choses ce matin. Il y a des « et si ». Mon thème de ce message, c'est « et si ». Regarde en arrière, c'est un peu difficile peut-être ce matin d'oser faire le bilan sur notre vie. On va recommencer une année scolaire, faisons le bilan. Et si ? Et si ? Vous savez, il y a des choses qui vous ont impacté et qui ne dépendaient pas de vous. On tourne ensemble notre Bible dans le Genèse 25. Le premier point, ça sera les « et si » qui ne dépendent pas de nous. Et le deuxième point, ça sera les « et si » qui dépendent de nous. Il y a certains événements dans notre vie qu'on a subis. Et il y a certains événements, ça sera le deuxième point, que l'on a choisi. Regardez ensemble. Dans Genèse chapitre 25, le début de l'histoire de Jacob. On va prendre le verset 22. La première fois, vous voyez, Jacob, il n'est pas encore né, il est dans le ventre de sa maman Rebecca. Et Rebecca, elle est inquiète, alors elle veut consulter l'Éternel. C'est un miracle ce bébé. Jacob devait pas naître. Rebecca était stérile. C'est le fruit d'un miracle. Tu sais qu'à la base, ça commence bien, parce que quand tu regardes statistiquement la probabilité que tu existes sur la terre, c'est très 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 faible. Et il y a un Dieu qui avait voulu que Jacob vienne au monde, alors que c'était mathématiquement très improbable. Parce que Dieu a fait ce miracle de vie, comme il t'a donné ce miracle de vie. Et Jacob, regardez, des jumeaux, parce qu'en fait il n'était pas seul dans le ventre de sa mère, des jumeaux se heurtaient dans le ventre de Rebecca et elle s'écria, « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, « Il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Le numéro 1 sera le numéro 2, le numéro 2 sera le numéro 1. Et le premier qui est venu au monde, c'est Ésaü. Jacob, lui, c'était le cadet, le deuxième. Vous savez, dans cette culture-là, quand on essaie en deux, c'était pas bon. Ça s'est joué à quelques secondes, mais il n'a pas eu de chance au départ. Comme c'est Ésaü qui est né en premier, Ésaü avait le droit à toute la place d'honneur. D'ailleurs, regardez un petit peu plus loin, dans Genèse 25, chapitre 25, verset 27. Les deux garçons grandirent. Ésaü, donc l'aîné, devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Et dès le début, le papa, le patriarche, c'est lui qui classe, préfère Ésaü. Il y a des choses dans notre vie, vous voyez, je pense que dès le début, il va sentir, Jacob, parce que ça, c'est des choses qui se sentent, qu'un enfant ressent, qu'il n'est pas le préféré. Je sais que certains, il y a peut-être des aînés, ou des numéro 2, numéro 3, des numéro 4 dans la salle, et plus, si votre maman en a eu plus. Mais des fois, il ne s'est pas senti aimé par son père autant que le grand frère. Et pourtant, Dieu avait prévu que ça soit Jacob en numéro 1. Mais Isaac va tout faire pour le mettre en deux. Isaac va tout faire. Il y a même un jour où Isaac va dire à Ésaü, « Va vite, je vais bientôt mourir et je veux que tu sois en numéro 1. Je veux que tu sois béni. Je veux pas que ça soit ton frère Jacob. Je veux que ça soit toi, Ésaü. Va me chercher un gibier, va... ramène-moi un bon plat et je te donnerai la bénédiction du numéro 1. » Pourtant, un jour, vous connaissez cette histoire du plat de lentilles. Ésaü avait troqué son numéro 1 pour un plat de lentilles. Et toi, peut-être, tu as subi des injustices, tu te dis, mais ça devait me revenir, il a échangé. Dieu avait dit que je serais. Pourquoi, Seigneur, la vie fait que je suis impacté négativement? Pourquoi mon père fait cette différence, cette discrimination? Pourquoi alors que c'était écrit que c'était moi, pourquoi c'est l'autre? Il y a des choses que vous allez subir dans votre vie, vous ne les avez pas provoquées. Il n'est en rien responsable de ça, Jacob. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. parce que je suis persuadé que les « et si » qui ne viennent pas de toi, mais qui impactent ta vie, lorsque tu es victime d'une injustice ou de quelque chose de ce genre, Dieu corrige pour toi. Dieu corrige pour toi. Il y a des choix où tu as été victime de situations. Pour certains, ça peut être toute forme d'abus, ça peut être des situations de grande souffrance où tu as été impacté par un événement que d'autres ont fait pour toi. Et ta vie s'est retrouvée malheureuse de cela. Je peux te dire une chose, il y a un verset dans la Bible qui est clé dans le livre des Romains. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son bienveillant dessein. Dieu a un bienveillant dessein pour ta vie. Et quand l'ennemi vient et te décale et veut décaler les projets de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Il avait dit, Jacob, tu seras le numéro 1. C'était prophétisé au départ, je ne changerai pas. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, Jacob va se retrouver en numéro 1. Parce que sa maman va dire c'est une injustice. L'Éternel avait dit que tu serais en 1. Et sa maman va compenser pour lui. C'est qu'il y a des personnes que Dieu mettra sur ta route pour que la parole de Dieu s'applique pour toi. Des personnes qui corrigeront les injustices que tu auras vécues parce que la parole de Dieu s'accomplira pour toi. Tu auras, c'est vrai, je ne dis pas que ça ne sera pas sans souffrance. Il y a des souffrances à cela. Mais le plan de Dieu, les « et si » que l'adversaire a essayé d'envoyer contre toi, Dieu les brise. Ces choses qui ont impacté ta vie négativement, il y a un Dieu qui corrige. Parce qu'il y a un Dieu qui maîtrise tout. Il laisse certaines choses arriver. Mais au final, l'appel que Dieu a prévu pour toi, son bienveillant dessein, va prévaloir sur toutes les stratégies humaines. Et je bénis Dieu parce qu'il contrôle tout. Ma vie est contrôlée par Dieu. C'est vrai, il peut m'arriver des choix qui m'impactent, des choix des autres qui impactent ma vie. Mais je peux dire une chose, je me mets sur mes genoux et je dis « Seigneur, tu as permis que cela arrive, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas provoqué. Cela a impacté négativement ma vie. Mais je crois que le Dieu dans le ciel a dit « L'aîné sera assujetti au cadet, le cadet sera numéro 1. Je suis un enfant de Dieu, c'est toi qui as ma cause. Je ne me bats pas pour cela. L'Éternel a ma cause entre ses mains et je peux te louer. » Alors il y a des deuxièmes points. Il y a des « et si » qui sont remplis de regrets dans la vie de Jacob. Ça va être un peu plus profond, là, il va falloir me suivre. On va lire ensemble notre Bible. Au moment où Jacob va arriver chez Laban. Vous savez ce qui se passe chez Laban ? Chez Laban, c'est ce grand-oncle. Il quitte sa famille, c'est le moment de l'autonomie. Vous savez, il y a des « et si » que l'on subit lorsqu'on est jeune. Peut-être il y a peut-être des jeunes dans cette salle qui ont été impactés. Les choix de vos parents ont impacté votre vie, vous n'y êtes pas forcément pour quelque chose. Mais au bout d'un moment, il y a le temps de l'autonomie dans notre vie, où on grandit, on mûrit. Il y a un moment où on pourra plus se cacher en disant « c'était le choix des autres ». Il y a des choix qui dépendent de toi. Ton mariage dépend de toi. Ta situation professionnelle dépend en partie de toi. Tes études dépendent en partie de toi. On ne peut pas toujours se cacher en disant « c'est la faute des autres ». Et Jacob va être, au moment de l'autonomie, Dieu est d'accord avec ça. Il part et il arrive chez Laban, son grand-oncle. Son grand-oncle a deux filles, vous savez. Comment elles s'appellent ? Léa et Rachel, vous vous rappelez cette histoire ? Jacob tombe amoureux. Jusque-là, il n'y a pas de souci, Dieu est d'accord. Il tombe amoureux de Rachel. Et c'est le mariage qui se prépare, c'est la fête, il y a des danses, il y a des chants et il y a du vin qui coule. Vous savez ce qui se passe ? Il va travailler pendant quand même des mois et des mois et des mois pour Laban. Il va connaître Laban, d'accord ? Écoutez ce point-là. Le jour de son mariage, Jacob, je parlais vrai ce matin, était tellement bourré. Jacob avait tellement bu que quand il est rentré dans sa tente, il a couché avec une femme qui n'était pas le plan de Dieu pour lui. Il a couché avec Léa. Et si ce soir-là, j'avais pas bu? Et si j'avais été plus sérieux? Voyez, je vais être très concret ce matin. Ce que Dieu dit, que tu ne peux pas prendre un petit verre de temps en temps, c'est possible. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu peux prendre un verre pour ton estomac. Mais par contre, Dieu dit l'abus d'alcool, le fait d'être ivre, c'est un péché. Voyez, c'est permis, mais c'est dangereux. Vous me dites, oh pasteur, j'ai pas de problème avec l'alcool. Tu vas sur Facebook ? Facebook, c'est permis. Quand tu vas cliquer pour essayer de retrouver, je vais parler vrai ce matin, un ex, un homme pour qui tu as eu des sentiments dans le passé, tu es marié, ou bien tu es célibataire, mais c'est quelqu'un qui t'avait fortement troublé et que tu sais, c'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais tu lui envoies un petit message. Oh, c'est juste un petit message, pasteur, c'est pas un péché. C'est vrai que c'est pas un péché, mais c'est dangereux. Quand t'as servi le verre, Jacob, le jour de ton mariage, tu savais ce que faisait l'alcool. T'es pas un petit jeune de 15 ans quand t'es là. Tu sais ce que ça fait. Et avec tous les bêtises que t'as faites dans ta vie, là je te parle à toi ce matin, il y a certaines choses que tu sais, c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu. On peut aller sur MSN, on peut tchatcher avec quelqu'un de tordu. Mais c'est jouer avec le feu. Je vais aller plus loin. Tu peux regarder Sex and the City. Tu dis, ah, c'est juste un film. Une fois. Puis tu es accroché par cette série. Et tu te rends pas compte combien la mentalité de ce monde vient salir ton cœur progressivement. Mais pasteur, c'est pas marqué dans la Bible que je ne peux pas faire ça. Tu sais quoi ce qui a marqué dans la Bible? On va le lire. 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous ne pouvez pas boire, ça va s'afficher sur vos écrans aussi, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur. Il est fort l'apôtre Paul, hein, te dire ça, c'est un message fort, je suis désolé, mais c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien voulez-vous provoquer le Seigneur, dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Oui, et moi j'aime bien ce verset. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Jacob, tu as le droit pour ton mariage de faire la fête et de boire un verre. Mais si ce verre fait que tu vas coucher avec une personne qui t'éloigne de Dieu, c'est dramatique parce que ta vie, ce jour-là, va prendre un tournant. Et c'est un « et si » dont tu es responsable. Pourquoi je vais dire que tu es responsable? Parce que Jacob, tu connais le méchant. Il sait que Laban est tordu par nature. Vous savez comment on appelle Jacob? Jacob, on l'appelle le rusé. Le rusé, d'accord? Jacob, c'est le rusé. Et des fois, on se croit malin, vous voyez. Mais il y a toujours quelqu'un de plus rusé que vous. Et des fois, on se dit, par rapport au choix de notre vie, on dit, je maîtrise. Je peux flirter avec cette personne qui connaît pas Dieu, avec cet inconverti, ce collègue de travail. Je peux flirter, je maîtrise. Et je suis malin. Mon nom, c'est Jacob. Et quand le jour de son mariage est arrivé, vous croyez qu'il savait pas que son père était assez tordu? Que son beau-père était assez tordu pour faire des combines? Ça faisait suffisamment de mois et d'années qu'il bossait avec lui pour savoir que son beau-père était tordu. Et pourtant, il a bu le vin, vous voyez? Encore et encore et encore. Notre adversaire, le diable, s'appelle le malin. Et je vais te dire quelque chose, je suis désolé pour ton orgueil, pour mon orgueil, mais il est plus malin que toi et moi. Parce que nous, chrétiens, on est gentiment naïfs des fois. Quand on est dans le bonheur que Dieu nous donne, parce que c'est le bonheur que Dieu lui donne avec ce mariage, vous voyez ? C'est le bonheur, c'est un moment de joie dans sa vie. C'est un moment où il va pouvoir dire, c'est extraordinaire, j'ai attendu tout ça, j'ai ma Rachel, je vais pouvoir construire avec elle ma vie. Et à ce moment-là où Dieu est en train de le bénir, le diable se dit, si je peux casser le plan de Dieu avec un et si qui dépend de lui, je vais le faire. Parce que vous voyez, nous on rentre dans la vie avec tous nos petites pâquerettes et nos petites fleurs bleues. Et le diable, lui, il a tout son plan et il s'est dit déjà, je suis sûr que Laban, il a calculé, quand il remplit le verre de vin de Jacob, il dit, impeccable, on est déjà au 8e. Et Jacob, il dit, oh ouais, de plus. Je maîtrise. Vous voyez, il y a quelque chose là-dedans. C'est que le méchant, lui, il a un coup d'avance sur toi. Je ne sais pas si je suis clair ce matin. Va pas dans la vie en pensant à proviser. En tant que chrétien, tu n'as plus le droit de dire « Je vais là où je le sens ». Il y a des choses. Tu ne peux pas y aller. Tu dois savoir quelles sont tes limites. Alors vous allez me dire « Mais pasteur, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'alcool ». Peut-être toi, tu n'as pas le droit d'alcool, mais toi, tu as le droit. Peut-être que moi, il y a certains films où je sais que je maîtriserai la télécommande et toi, tu ne maîtriseras pas. Mais j'ai aussi des failles que toi, tu n'as pas et que moi, j'ai. Et c'est pour ça que la Bible dit, tout est permis, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout m'aide pas à grandir dans la foi. Et c'est au cas par cas. Il y a ici des personnes qui ont des problèmes avec le domaine de la sexualité. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec le mensonge. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec la colère. Et donc, chacun doit faire sa règle en fonction de ce que le Saint-Esprit lui dit. Jacob, si tu as un problème avec l'alcool, tu ne bois pas ce jour-là. Parce que le diable est là et il a un coup d'avance et il sait quelle est ta faille et il saura quel est le verre de trop. Tu peux aller en... Je peux vous dire une chose. Je suis marié, si je vais en boîte de nuit, je vais être choquant un peu ce matin, mais parlons vrai. Je peux aller danser sur une piste de danse. Et probablement, vous savez pas quoi, il se passera rien du tout. Je vais rentrer le soir, j'aurai passé une bonne soirée. Mais si par hasard, c'est simplement un jour où je suis fatigué, ou avec mon épouse, on ne s'est pas très bien entendu ce jour-là. Et que le diable, ayant un coup d'avance, m'amène la femme qui correspond exactement à ce qui m'a manqué dans cette journée par rapport à ce que j'espérais de mon épouse. Alors je suis un kamikaze à y aller. Et je n'ai aucune excuse si je tombe. Tu dois mettre tes limites. Et ce n'est pas aux autres de mettre tes limites. Vous savez, il y a des églises, c'est tout simple. Ils vous disent, tu fais pas ça, 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 tu fais pas ça. Mais c'est pas ça le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est tu as un ami dans le ciel. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon esprit sera en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Si tu laisses le temps au Saint-Esprit de te dire, tu gâcheras pas ta vie par des « et si j'avais été plus sérieux ». Je peux encore dire quelque chose ? Ça fait mal déjà. Mais je veux que le Seigneur accepte aussi. Je veux accepter aussi que le Seigneur me reprenne et souligne des choses dans ta vie. Et si j'avais su dire non lorsque ma conscience me reprenait? Ça, c'est un autre moment. Regardez dans Genèse 30. Je veux fouiller par rapport à Jacob parce que si ça a été écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Jacob, donc dans Genèse 30, s'est marié avec les deux femmes finalement. Que de soucis. Parce qu'il y a une jalousie, ils se détestaient. Et alors que les deux sœurs étaient censées être des amies, bah des sœurs tout simplement, elles se sont détestées, elles se sont fait la guerre toute leur vie, ces femmes-là. Deux femmes malheureuses. Chapitre 30, verset 1er. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai !» Jacob se fâcha contre elle et dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu ?» C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. Alors, suggéra-t-elle, voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant. Elle accouchera sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. Le point que je veux souligner dans les et si qui dépendent de nous, c'est et si j'avais su dire non quand ma conscience me reprenait. Il y a des choix, il y a des moments où vous le sentez parce que justement ce que je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, ce guidage par le Saint-Esprit, ce GPS spirituel, vous dit « va pas là-dedans ». Et je sais que Jacob, au moment où sa bien-aimée Rachel lui dit « fais un enfant avec ma servante et je vais dire que c'est le mien », il se dit « c'est tordu ce plan ». Mais vous voyez, ma femme souffre. et je vais lui faire plaisir. Et c'est du grand n'importe quoi. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan et c'est un mauvais plan. Et il y a quelque part, quelque chose en toi qui le sait. C'est un mauvais plan et c'est une mauvaise coutume. Vous voyez pourquoi il va le faire ? Parce que c'est de la coutume. Parce que ça se fait comme ça à l'époque. Parce que, ah, je suis désolé, mais pasteur, vous ne pouvez pas comprendre, moi, dans mon pays, ça se passe comme ça, alors je peux... Tu diras ce que tu veux devant le ciel. Moi, je peux dire une chose. En Bretagne, ils boivent tous. Ça va un peu mieux quand même. Avec la Russie, on est les champions du monde. Eux, c'est la vodka. Nous, c'est toutes sortes d'alcool. Je ne vais pas prétexter. C'était une coutume chez moi, donc je peux le faire. Ce n'est pas parce que tu es colombien que tu as le droit de te droguer. Je fais cliché ce matin, mais il faut que tu comprennes, quoi. Arrête de dire, oui, mais moi, la coutume au pays, c'est ceci, cela. Si ta coutume est mauvaise, t'as rien à dire. T'es au-dessus, il y a un moment où vous êtes des enfants de Dieu plus que des enfants de votre coutume. Et vous ne pourrez pas dire, ça se passe comme ça chez moi, donc je vais le faire. Si tu vois que ce que tu fais reprend ta conscience, tu ne pourras pas arriver devant le ciel en disant, mais c'est la faute de papy qui me l'a appris, de ma mamie, puis les tantes, elles m'ont poussé à faire ceci, t'as rien à dire. Jacob, c'est sa femme qui lui a dit de le faire. Sa conscience le reprenait à ce moment-là. Il ne devait pas le faire. Surtout quoi ? Surtout que, soyons honnêtes, il a vu ce que cette coutume avait déjà fait chez papy Abraham. Lorsque vous rappelez Sarah ? Elle a eu cet enfant, Ismaël, le dégât dans la famille, alors que Dieu allait vraiment finalement donner Isaac. Quel dégât ! T'as aucune excuse pour reproduire des coutumes que tu savais qui étaient mauvaises chez les anciens, il n'y a pas de raison qu'elles soient bonnes pour toi. Tu dois te positionner. Lorsque ta conscience te dit non, il y a un non et c'est le non, point barre. Et si Jacob ce jour-là avait dit « Rachel, je t'aime », l'Éternel t'a dit non pour l'instant, c'est pas à moi de forcer la main de Dieu, je vais pas prétexter une coutume, je vais même pas prétexter que parce que je t'aime et parce que tu me fais tomber une petite larme, je vais faire. Non, je peux pas le faire. Ça m'arrache le cœur de te dire non, mais je te dis non quand même. Parce que je t'aime assez et j'aime assez mon Dieu pour savoir que Dieu est capable de faire autrement qu'en faisant des plans tordus. Et ça, c'est important. Vous voyez pourquoi ? Parce que j'arrive au troisième « et si ». Et si ? Vous voyez, il va se retrouver avec une famille, mais ça va être du grand n'importe quoi. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Hein. Des fois, on a des familles, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai des élèves, c'est beau être deux frères et sœurs, à deux, ils arrivent presque à avoir trois parents différents. Le premier, celui du deuxième et celui le nouveau maintenant. C'est comme ça à l'époque de Jacob. Là, il y a des enfants, c'est les enfants de Léa, il y en a, c'est les enfants de Rachel parce qu'il y a un miracle de Dieu. Après, c'est les enfants de Bila, après, c'est les enfants de la servante de Léa parce qu'elle a voulu compenser le fait de ceci et de cela. Et ils se retrouvent avec une famille. Mon troisième et si. Et si j'avais su aimer ma famille. Parce que vous voyez, Jacob, lorsqu'il est devant le pharaon en train de dire « mes jours ont été mauvais ». Il est en train de penser à toutes les divisions. Il est en train de penser, parce que c'est Joseph qui l'amène, il est en train de penser à tous les soirs où il était en larmes, en train de s'allonger, de se prosterner devant Dieu en disant « Seigneur, Dieu du ciel, pourquoi tu m'as fait mourir mon fils Joseph ?» Et en fait, son fils Joseph, ce n'est pas Dieu qui lui l'avait enlevé. Mais c'est la colère, la jalousie, la méchanceté des frères les uns pour les autres et qui est les uns envers Joseph. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Jacob, c'est triste à dire, tu en es un peu responsable de tout ça. Parce que Jacob, il a toujours dit, la plus belle tunique, c'est pour Jojo, Joseph. Et les autres, ils en ont juste eu marre. Ça n'excuse en rien leur geste. Parce qu'ils sont coupables aussi. Mais vous voyez, il y a un moment où il n'a pas donné de l'amour à ses enfants. Notamment, je pense aux enfants de Bila, vous voyez. Il y a des Siméons là-dedans. Siméon, c'est quelqu'un qui a fait des massacres. Siméon, c'est quelqu'un qui a été dur toute sa vie. Siméon, c'est celui que Joseph, d'ailleurs, a gardé en prison. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais Siméon, c'est un enfant qui a été abreuvé à la colère, abreuvé à la jalousie. Quand Jacob passait, c'était un petit câlin, un petit bisou. Tiens, Joseph, viens dans mes bras. Siméon, allez, vas-y, va au champ, toi, haut. Et quand il a vu ça, ça a mis de la colère à l'intérieur. Pourquoi t'as pas aimé ta famille pendant qu'il était temps ? Ce matin, le « et si » que je te dis, le rate pas. C'est pas encore trop tard. Tu n'as pas les 130 ans de Jacob. Aime ta famille. Donne de l'amour à tous tes enfants. Oui, mais et je parle aux familles recomposées ce matin. Ne fais pas de différence entre ta famille que tu as eue de ta chair et celle que tu as par mariage. Donne de l'amour à tout le monde. Parce qu'un jour ou l'autre, si tu fais des différences, ça sera une bombe qui explosera dans ta vie. Et ce ne sera pas la faute de Dieu, mais ça sera parce que Dieu a dit « aimer ». Et si Dieu t'a dit même d'aimer tes ennemis, à combien de plus fortes raisons Dieu te dit d'aimer ceux qui sont proches? Vous savez, des fois, j'entends des trucs incroyables. Il y a des personnes qui disent « Ah, vous savez, pasteur, ils sont mariés, ils ont des enfants et tout ça. Mais bon. J'ai tant d'amour à donner. » Sous-entendu, vous savez, ma femme, elle n'est pas très aimable, mais au fond, j'ai beaucoup d'amour à donner. J'ai dit, t'as beaucoup d'amour à donner, commence à donner à ceux qui sont proches. C'est facile d'aimer celles que tu vois à la télé. Hein. Commence à aimer les personnes qui sont proches. Jacob, t'as beaucoup d'amour à donner, tant mieux. Eh bien, Dieu t'a donné beaucoup de personnes à aimer. Quand tu regardes ta famille, elle est suffisamment grande pour que tu passes tes journées entières à aimer. Hein. Si tu dois faire un petit câlin à tout le monde, tu commences à 6h du matin et tu finis à 22h. Hein. Faites ça et vous verrez que vous éviterez beaucoup de choses. Parce que je suis sûr qu'à la fin de sa vie, lorsque le papy Jacob est avec toute sa grande famille à Goshem, il se dit, c'est tard pour aimer. C'est trop tard pour aimer. Parce que Siméon, il a 68 ans. Donc c'est, vous voyez, on ne peut plus lui faire les petits bisous qu'on lui faisait quand il avait 8 ans. Il y a des regrets que tu vas avoir. Et tu as la chance d'être là ce matin. Aime tout le monde tout de suite et fais pas de différence. Je termine ce matin parce que le temps passe. J'ai une dernière pensée. Vous êtes encore là avec moi? La fin est dure aussi. Hein. Mais je pense que ça vient de Dieu et ça va te reprendre encore une autre type de personne. Enfin, moi je me l'applique à moi-même. J'ai besoin d'entendre le dernier point. Et si tu me laisses quelques instants, je voudrais le partager avec toi. Le dernier est ici. Genèse 35. Vous tournez, c'est le dernier texte. Genèse 35. Et si j'avais passé plus de temps à Bethel? Je ne sais pas si tu peux dire à ton voisin, et si tu passais plus de temps à Bethel? Dis-le à ton voisin. Pour l'instant, il ne comprend pas, tu peux le dire, c'est sans risque. Et si tu passais plus de temps à Bethel? Vous savez ce que c'est Bethel? Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est là où Dieu a parlé à Jacob. Où est-ce que tu t'es engagé avec Dieu? Dis-moi. Oh, il y en a certains, ils vont me dire, c'était tout seul dans ma chambre en écoutant une cassette, parce que peut-être c'était une cassette ou un CD. Il y en a certains qui vont dire, oui, c'est ma maman qui m'a parlé, etc. Mais il y en a beaucoup d'entre vous, je peux vous dire que la décision que vous l'avez prise, c'est peut-être pas ici. Certains, c'est ici. Je suis content. D'autres, c'était dans une église, mais c'était dans une maison de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un moment où Dieu, dans sa maison, vous a parlé. Je suis sûr que les 80% parmi vous, il y a forcément un jour, vous êtes avancé à un appel. Et où quelqu'un a prié pour vous, et c'était pas du cinéma, vous étiez sérieux ce jour-là. Et ce jour-là, vous avez entendu une parole de Dieu. Peut-être qu'il y avait quelqu'un ce matin par rapport à la prophétie. C'était pour toi. Tu sais pourquoi Dieu te parle ici? Parce qu'ici, c'est Bethel. À ce matin, tu aurais pu regarder Téléfoot, mais tu n'aurais pas eu de pensée de Dieu devant Téléfoot. Il y a un moment où c'est comme tout à l'heure. On n'est pas obligé d'aller à Bethel. On n'est pas obligé de rester à Bethel. Mais ne profite pas de cette liberté que Dieu te donne pour zapper ton Dieu. Jacob, c'est un nomade. D'accord? Un nomade, ça veut dire qu'il a des troupeaux. Il a des troupeaux qui ont besoin de pâturage. Donc, il a besoin d'aller dans un endroit où les prés sont verts. Il fait que tous ses brebis, ses moutons là puissent manger et il se déplace. Et parmi vous, vous avez presque tous changé d'église un jour. Vous êtes d'accord ou pas? Presque tous, vous avez été dans une autre église un jour. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde parce que cette église, elle a que 7 ans. Donc, à moins qu'il y ait des petits-enfants parmi nous, il n'y en a pas. On a donc tous changé d'église. Sauf si vous y êtes nés spirituellement. Bon. C'est pas un péché de changer. Par contre, il y a un endroit où tu dois toujours te retrouver. C'est là où Dieu te parle. Dans la présence de Dieu. Je lis le verset 35-15. Jacob donna au lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Bethel. Et le verset 16 m'attriste beaucoup. Et si j'étais resté à Bethel ? Le verset 16 dit « Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Éphrata, Rachel donna naissance à un enfant et elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit « Courage, c'est encore un garçon. » Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Benoni, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire à Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe, une stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est encore un lieu de conflit entre les Juifs et les Palestiniens sur le tombeau de Rachel à Bethléem. Et pourquoi il a quitté Bethel? C'est la dernière chose que je veux dire ce matin. Dieu sait que tu ne peux pas rester tout le temps. On ne peut pas dormir ici, vous voyez. Hein, ça fait 500 mètres carrés, on ne peut pas tous s'installer dans une petite pièce. Ça ne va pas être possible. Mais par contre, on peut passer du temps dans une église. Et ça, j'ose le dire parce que je pense que cette église n'est pas abusive. Il y a des églises où peut-être les pasteurs vont vous aspirer, vous vampiriser, vous faire travailler pour eux au lieu de faire travailler pour l'œuvre de Dieu. Et là, d'accord, on peut en être écœuré. Mais il ne faut pas prétexter cela pour zapper le temps que Dieu a, où Dieu veut te parler ici. Je sais que tu peux dire la réunion de semaine, elle est optionnelle, d'accord. Le dimanche matin, tu peux l'en faire sauter quelques-uns, d'accord. Mais tu prends un risque. Je ne dis pas que c'est un péché. Je dis que Dieu t'a donné la liberté et je ne te l'enlèverai pas parce que sinon je serai dans le faux. Mais je dois dire une chose, c'est que lorsque tu passes du temps à Bethel, tu as plus de possibilités, plus de probabilités d'y entendre la voix de Dieu. Plus tu passes du temps à lire ta Bible, excuse-moi, c'est quand même vrai, plus il est possible que Dieu te parle. Plus tu vis des temps de louange intense, plus tu es sérieux dans ton culte personnel, et plus tu entendras la voix de Dieu. C'est pas vrai sur une foi, mais c'est vrai sur une vie. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ça se joue pas sur un jour, ça se joue sur tous les jours. Ça sert à rien d'être super fidèle à une église pendant 2 ans pour après être un vagabond spirituel. Il aurait mieux fallu être régulier. Je dis pas dans cette église. Dieu peut peut-être t'appeler ailleurs. Je veux pas. Sois là où Dieu te veut. Sois dans ton Bethel. Sois à l'endroit où Dieu te parle. Mais si Dieu te parle ici, sois fidèle ici. Voyez, je pense à Jacob. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit? S'il était là, papy Jacob, qu'est-ce qu'il dirait? Il dit, mais mes troupeaux, ils étaient devenus trop grands. Mais au bout d'un moment, on avait mangé toute l'herbe, là, la louange était bonne, les prédications étaient pas mal, une bonne convivialité, mais vous voyez, à un moment, on avait besoin de plus. Et puis mes troupeaux, ça avait grandi. Pourquoi ces troupeaux ont grandi? Parce que Dieu le bénissait. Parce que Dieu avait fait grandir ses troupeaux à Bethel. Et une fois qu'il a été béni par Dieu, il s'est dit, je vais aller descendre un petit peu vers le sud. Parce que vous voyez, Bethléem, c'est au sud de Bethel. C'est sur la route de Beersheba. C'est sur la route du désert du sud. Il s'est dit, on va aller faire la route des puits, on va aller voir s'il n'y a pas un autre endroit. C'est trop petit. Vous savez que des fois, la bénédiction de Dieu va vous mettre en danger. Des fois, on est béni dans une église, mais on n'arrive pas à le gérer. Vous allez avoir une certaine bénédiction de Dieu et vous allez avoir envie de tout gâcher. Moi, je sais que mes parents, là pour le coup, m'ont donné un bon exemple. Ils m'ont toujours dit, Yvan, je ne sais pas, maintenant je suis pasteur, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais en tout cas pour vous. Il dit, le fait que l'on soit nourri quelque part, le fait qu'il y ait un environnement spirituel pour nos enfants, vaut plus que notre carrière. On a un problème d'immobilier tous. Hein. C'est la folie les prix ici. Donc on peut se dire, moi je peux être comme vous, je peux être tenté de se dire, ah et puis pourquoi pas j'irai pas habiter à 100 km de Paris, dans un lieu un peu plus paumé, où je peux avoir non plus être locataire, mais être propriétaire. Vous voyez, ça peut être notre rêve et c'est légitime. Parce que je peux te dire, Jacob, c'est que quand tu vas loin et que tu vas à Beersheba, là, c'est sûr que tu n'es plus embêté. Hein. Mais il y a un moment où, réfléchis bien, fais le calcul. Est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que ce n'est pas de Dieu? Je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu. Mais je dis que tu dois savoir, parce que tu dois chercher la face de Dieu, est-ce que ce n'est pas dangereux pour ma vie spirituelle et pour mes troupeaux? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour ma famille d'y aller? Je peux aller dans la Creuse. Je vais pouvoir avoir une maison pour 70 000 euros. Mais s'il faut faire une heure et quart pour aller dans une église, vu ma santé spirituelle et vu mon ado de 18 ans, que j'ai du mal à amener au culte pour faire 10 minutes, vaut mieux peut-être pas que j'aille dans la Creuse. Oui, mais pasteur, pour une fois que je peux, j'ai une opportunité vers Beersheba. Calcule bien. Il y a des « et si », tu vas regretter. Je pense à Jacob, il se dit « Rachel, c'est quand même incroyable. J'ai ma tante, ma bien-aimée Rachel. » Abraham, il est dans le tombeau que de ses ancêtres, dans le champ du Hittite, qui était prévu, vous savez, tombeau d'Abraham. Avec Abraham, dans le même tombeau, il y a Sarah. Avec Sarah, il y a Isaac. Avec Isaac, il y a Rebecca. Avec là aussi, c'est là où Jacob lui-même va être enterré. C'est là où il y a aussi Léa. Et la seule qui est à côté, qui est au milieu de nulle part, c'est Rachel. C'est quand même dommage. Des fois, il y a des choix que l'on fait, Dieu ne nous les a pas interdits de les faire, mais simplement, on perd du monde en route. On perd du monde en route. Je dis une dernière chose. J'arrête parce qu'après, je veux que ça soit toi qui vois si ça vient de Dieu ou pas. Je vais dire la vérité. Il y a des réunions où vous ne recevrez rien. Il y a des jeudis soirs, bon là je dis c'est parce que c'est le jeudi soir ici mais ailleurs, il y a des temps où vous allez à la réunion, où vous allez prier avant, vous dites Seigneur parle-moi, vous n'allez rien recevoir, d'accord? Il y a des temps où vous allez aller à Bethel et il n'y aura pas de parole de Dieu. Il y a des moments où même la réunion va être longue, le prédicateur va être fatigant, la louange va être de mauvaise qualité et la sono ne va pas afficher correctement les chants. Et on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine après mon travail de faire encore l'effort d'eux? Ça, je suis le seul à qui ait pensé ça ou bien ça vous est déjà arrivé aussi? Des fois, vous n'êtes jamais demandé est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille à la réunion? C'est optionnel de toute façon. Bon, et vous voyez, ça ne se joue pas sur une réunion. Ça se joue sur une foultitude de réunions. Et il y a un jour où tu viendras sans être bien préparé, un jeudi soir ou une réunion où il n'y avait rien de particulier. Et ce soir-là, ton Dieu t'attendait à Bethel. Et tu ne le sauras jamais parce que tu n'auras pas pris la peine d'y aller. Ma maman m'a dit une fois, elle avait été tellement fatiguée d'aller à la réunion. Vous savez, les réunions, les églises dans le temps, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. Hein. Il y a toujours eu des réunions ennuyeuses et c'est comme ça. Et elle était, voilà, comme ça pour aller à la réunion. Quoi. Elle me dit, Van, j'avais pas envie d'y aller. Et j'ai dit, Seigneur, fais qu'il se passe un truc enfin ce soir. Parce que les réunions, c'est toujours pareil. Elle est arrivée devant la salle. Elle dit, Seigneur, fais qu'il se passe quelque chose. Elle arrive devant la porte et au moment d'entrer, porte fermée. Réunion annulée. Elle m'a dit, moi, j'étais reprise. Il y a un verset qui lui est venu dans la tête. Vous savez, c'est ce verset qui dit, tu méprises les eaux de Siloé, c'est les eaux d'Israël, qui coulent doucement. Tu es intéressé par les fleuves tumultueux comme le Parpar. Vous voyez, des fois, on est attiré par tout ce qui... Jacob, il en a marre de tourner à Bethel. Il a envie d'aller un peu plus loin. Vous voyez, rester dans un hôtel parisien, on finit par s'enlacer. On a besoin de faire des Sofitel à Bangkok, puis des Sofitel à New York. Et puis un jour, tu étais simplement trop loin de ta femme. C'était pas interdit. Mais plus... tu prends des distances par rapport à l'endroit où tu es nourri et plus tu prends des risques. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur Jésus, dans une vie, chaque décision compte. Alors que tu fermes les yeux, baisse la tête, laisse le Saint-Esprit te parler. Et si tu étais plus sérieux, J'ai parlé de Facebook, j'ai parlé de certains films, j'ai parlé de choses. C'est pas que c'est interdit. Mais alors que tu as les yeux fermés, tu as senti tout à l'heure que le Saint-Esprit te disait « Il y a quelque chose pour toi là. Pour toi, c'est dangereux cette chose-là. » Tout à l'heure, c'est peut-être le Saint-Esprit qui a souligné. Quand ta conscience te dit non. Et si toi aussi tu savais dire non quand ta conscience te dit non. Tu ne pourras pas prétexter les coutumes, tu ne pourras pas prétexter les autres. Seigneur Jésus. Alors que tu as les yeux fermés, rappelle-toi le Dieu qui t'a dit « Et si ?» Tu donnais plus d'amour à ta famille, à tes proches pendant qu'ils sont là. Et si tu passais plus de temps dans la maison de Dieu à Bethel? Seigneur Jésus. Il y a une réalité ce matin. Est-ce que tu veux laisser Dieu t'attirer à lui? Il y a un chant qui dit « Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Je suis prêt à tout abandonner pour retrouver notre amitié. » C'est le moment, on est encore au mois de septembre, pour se repositionner pour Dieu. On peut se lever ensemble dans la maison de Dieu.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas.
Si tu es sincère, Dieu entend ta prière ce matin.
Je veux tout abandonner.
Tout abandonner, Jésus.
Restaurer notre amitié. Tu es mon désir,
Seigneur.
Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Amen à toi.
moi.
Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia, Jésus.